BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Il est bientôt 10h, vous êtes toujours sur BFM Business en direct pour les experts, pour une demi-heure de débat et de controverse. On va se diriger du côté de Bruxelles. Maintenant, la Commission européenne a rendu hier son avis sur la trajectoire budgétaire française. Elle estime que l'Hexagone, grosso modo, a respecté ses engagements en matière budgétaire et que la mise en œuvre des réformes et des investissements promis à Bruxelles en 2024 est, je cite, « globalement en bonne voie ». La procédure pour déficit excessif engagé en 2024 reste donc suspendue pour l'instant. Rien Ezar, vous êtes un grand spécialiste des finances publiques. Est-ce que, la première question, quand on voit ça, je rappelle qu'on est quand même dans le trio de que des déficits les plus élevés, hein, ou trio de tête des déficits les plus élevés.
La dette.
Pour le déficit et pour la dette. Ma question est simple ce matin. La Commission est-elle lucide ou trop conciliante?
Non, la Commission a raison de dire que la France a commencé à faire des efforts. Si on regarde sur la période 2024 et 2025, l'objectif qui avait été donné de faire augmenter les dépenses publiques en France de 4,6% a été en fait non seulement respecté, mais l'évolution a même été de 4,3%, donc c'est plus faible.
On a fait mieux que nos engagements.
On a fait mieux que la cible qu'on s'était...
Il faut rappeler que c'est le nouveau corpus.
C'est la nouvelle
maintenant,
méthode.
Hein,
on parle souvent du déficit à 3%. La réalité aujourd'hui, c'est que le pilotage des politiques budgétaires en Europe, dans la zone euro, se fait maintenant plutôt sur les dépenses que sur le déficit strictement. Donc, elle a plutôt raison de dire ça. Néanmoins, deuxième point, vient tout de suite nuancer le premier, c'est que le plus dur de l'effort est à venir. Parce que ce que dit aussi la Commission, c'est que quand on regarde nos dépenses publiques, 60% sont liées au modèle social.
Oui.
Que quand on regarde certains secteurs, on a parlé des retraites tout à l'heure, le secteur de la santé, le secteur de la masse salariale publique, les collectivités locales, etc. Il y a des gains qui sont possibles de réorganisation, de productivité. Et donc la Commission, mais comme tous les organismes internationaux, hein, l'OCDE fait pareil,
le FMI,
pareil, des économistes indépendants font pareil, cible, souligne, pointe les gains qu'on peut réaliser à l'avenir. Moi, ce que je trouve aussi intéressant pour finir, c'est que dans l'analyse de la Commission, finalement, c'est pas qu'un plan comptable ce que fait la Commission, c'est pas uniquement budgétaire, il y a aussi une analyse économique.
Oui.
Et ce que dit la Commission, c'est que un des problèmes aussi de la France aujourd'hui, de notre économie, c'est le manque de productivité. Et c'est lié à un investissement dans la recherche et le développement insuffisant. C'était 2,2% de notre richesse l'an dernier. Il faut juste se rendre compte que l'an dernier, en 2025, on a dépensé autant pour rembourser les intérêts de la dette que pour investir dans la recherche et le développement, collectivement en France. Donc c'est très insuffisant sur ce volet innovation. Et deuxièmement, c'est insuffisant aussi sur le volet formation, avec encore, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, un niveau de qualification qui est insuffisant, des filières de formation qui sont pas toujours adaptées à la réalité de l'économie et à ses transformations actuelle. Donc je trouve intéressant que la Commission n'ait pas qu'une approche budgétaire et elle recommande aussi finalement des évolutions de notre modèle économique au sens large, et y compris de notre fiscalité, parce qu'elle dit aussi que la France se singularise par, on le sait, hein, une fiscalité trop importante sur le travail et les facteurs de production en général et pas assez sur la consommation.
Oui.
Donc voilà, je trouve que ce sont plutôt des recommandations pertinentes et intéressantes.
Elle nous dit aussi qu'on a un véritable problème avec les retraites et que si on ne fait rien, le déficit pourrait déraper à 5,7% du déficit l'année prochaine.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, oui, la Commission, elle a quand même une habitude ancienne maintenant d'être très conciliante avec la France, hein, quand même. Il faut dire ça. Alors d'abord, il faut quand même voir que les règles européennes, c'est-à-dire le moins de 3% de déficit
public... Voilà, ont changé récemment, hein, après le
voilà,
Covid.
Et le 60% de dette publique. Bon, il y a 11 pays qui sont en procédure de déficit excessif. Donc en fait, ces règles sont devenues théoriques, mais je veux dire, voilà, à partir du moment où il y a quasi la moitié des pays qui ne les respectent pas. Bon, voilà. Après, la France, elle a toujours eu ce syndrome un peu du too big to fail. C'est un pays qui est... Enfin, voilà, je veux dire, c'est un moteur de l'Union européenne. C'est le plus important pays après l'Allemagne.
C'est la deuxième économie de la zone euro.
Voilà, donc deuxième économie de la zone euro. Donc bon, on peut
Ça veut dire qu'on est fort avec les faibles avec les forts.
Bah oui, c'est toujours été un peu ça. Hein. C'est une règle dans les faits. Et c'est vrai que, bon, la... Enfin, je veux dire, Quand on regarde quand même, parce que vous disiez qu'on était dans le classement de tête, oui, avec l'Italie et la Grèce, hein, donc on est dans le classement de tête, mais sauf que l'Italie et la Grèce, elles vont dans le bon sens.
Eh oui.
Et nous, on va pas vraiment dans le bon sens. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, oui, effectivement, là déjà, alors, notre objectif de cette année, c'est quand même de réduire notre déficit de 5,1 à 5.
Oui. Hein,
c'est un tout petit 0,1.
Ça va pas
Il va
loin.
Être très compliqué, hein, manifestement.
En plus.
Très compliqué à faire. Voilà.
Avec une croissance, évidemment, qui...
Avec une croissance à zéro, une inflation qui remonte, etc.
Pas aller très loin cette année.
Ensuite, les deux sujets, c'est-à-dire que, pour le moment, comment on a bouclé nos budgets avec un impôt sur les sociétés exceptionnel sur les grandes entreprises, qui nous a rapporté, qui nous rapporte plus de 7 milliards d'euros.
7 milliards et demi,
ouais. Voilà, donc, tout ça, c'est des mesures one-shot, à moins qu'on décide qu'on annule toute la baisse de l'impôt sur les sociétés.
C'est tout choc, déjà, pour
ans.
La surtaxe voilà, directe. C'est peut-être, on ne dit jamais 203.
Voilà.
Donc,
ça, je veux dire, c'est
prochaine.
Quand même pas sur le fond très tenable et très recommandé. Et l'autre point, ce qui, dans les recommandations de la Commission européenne, globalement aux pays européens, c'était en gros, mettez le paquet sur l'innovation, investissez sur l'avenir, etc. Ils sont où les gels de crédit là que l'État est en train de faire?
Alors
les principaux gels de crédit.
J'ai une audition du ministre des Comptes publics.
C'est France 2030,
oui.
Investissement d'avenir. Hein, je veux dire, c'est voilà, là on leur prend 400 millions si j'ai bien suivi, et c'est enseignement supérieur et recherche. Donc qui sont de nouveau là encore 300 millions. On avait dit qu'on allait enfin augmenter le budget de la recherche et en fait on annule toute l'augmentation et on revient à zéro. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? On se retrouve à dans les périodes de disette budgétaire et de gel de crédit. Les trois principales enveloppes dans lesquelles on a pris, c'est effectivement la recherche, les investissements d'avenir, et le troisième, c'est l'environnement, l'écologie.
Oui.
Voilà, la transition énergétique. Bon, on peut pas dire qu'on va véritablement dans le sens des recommandations de la Commission qui nous dit il faut mettre le paquet sur l'innovation.
Oui, effectivement. Et la Commission qui nous dit qu'on sera à 120% de dette l'année prochaine, les Français, ils en pensent quoi de cette dérive?
Ça explique ce que je disais tout à l'heure sur les deux années d'indice de morale économique catastrophique de nos concitoyens, puisque en réalité tout le monde comprend bien, et la première raison à mon avis qui fait qu'on est magnanime ou sympathique avec la France, c'est qu'il n'y a rien de possible. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et on le sait depuis la dissolution. Il n'y a aucun moyen d'imaginer quelques réformes possibles qui permettraient d'engranger un minimum de réduction de la dette, de mettre de l'argent dans les caisses. Donc on s'en prend à des choses qui sont utiles, qui sont indiquées comme stratégiques pour l'avenir,
ouais,
mais qui ne vont pas générer des manifestations dans la rue. À partir du moment où vous avez une assemblée en trois tiers, entre l'extrême droite, la gauche, le centre et LR, on va dire, qui ne peuvent pas, et c'est sain d'ailleurs, qui ne peuvent pas être d'accord sur les solutions, et c'est très sain qu'ils ne soient pas d'accord sur les solutions, et où vous savez qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive derrière et qui est la mère de toutes les batailles, on savait depuis deux ans que rien ne se ferait, et que rien ne se fera cette année. Le budget, le prochain,
oui,
va être encore tout pourri, pour dire les choses de manière extrême, si tant est qu'il y en ait un, mais non, mais il sera forcément mauvais. On va être en année présidentielle. Et oui, la Commission européenne ne veut pas tirer une balle dans le dos du principal pays locomotive, oui, de l'Europe, en le poussant sans doute en plus, et ne veut pas non plus le pousser en plus dans les bras du Rassemblement national, qui est un petit peu le favori aujourd'hui et qui n'est pas forcément le parti qui fait le plus envie à la Commission européenne pour la France.
C'était une des craintes au niveau de l'Europe, effectivement, avec la poussée des extrêmes absolument partout, en Allemagne, en Europe de l'Est, en Europe du Nord y compris, avec cette idée que des décisions étaient prises très loin du pays, s'imposaient aux États membres, et ça avait nourri cette poussée de l'extrême droite. C'est pour ça que la Commission a décidé de lever le pied un peu. On verra si ça a un effet ou pas. Gaël Sliman parlait d'une prochaine loi de finances qui sera probablement pourrie. Ryan Ezar, vous disiez ou pas, peut-être qu'il n'y en aura pas.
S'il y en a une, disait-il.
Si tant est qu'en effet, elle puisse être adoptée, On sait que les deux dernières années, l'adoption s'est faite au prix à la fois de 49.3
oui.
et de compromis qui ont fait sacrifier plutôt l'avenir.
Et d'un retard de l'année, hein, c'est toujours a été
absolument.
En
et à chaque février. Fois, février. Et juste un point pour compléter. Vous disiez tout à l'heure, à très juste titre, que on fait des économies qui sont un peu des expédients pour passer l'année, mais que les choix faits sur l'innovation, l'écologie sont préjudiciables à terme. Évidemment, c'est tout à fait juste. Mais c'est fait par le gouvernement aujourd'hui, parce que, ça a été dit, il n'y a pas d'autre marge de manœuvre. Ouais. Moi, je rappelle juste deux choses. Ouais. Au moment du budget initial qui avait été présenté à l'automne 2025 par le gouvernement, il y avait deux choix qui étaient proposés, parmi d'autres. Le choix sur la santé de faire porter des économies, notamment sur la consommation de médicaments, ouais. en essayant de se dire, bah, peut-être que on peut être un peu plus sobre, peut-être qu'il y a des gaspillages, et donc on va introduire des franchises, on va inciter à réduire la consommation.
On monte à 1,50€, quoi. Hein,
absolument.
Ouais, bon. Je crois qu'on est champion d'Europe de la consommation de médicaments.
Oui, et ce qui était d'ailleurs une recommandation de revue de dépenses qui avait été demandée à des experts, parce que la Commission dit qu'il faut faire des revues de dépenses, il faut que les experts vous disent...
Ça fait partie des préconisations de la Commission européenne.
Absolument. Et derrière, que l'exécutif et le Parlement en tirent les conséquences. Bah, l'exécutif l'a fait, le Parlement a rejeté cet article. Deuxième exemple, sur les retraites, la proposition avait été faite, souvenez tout le débat sur l'année blanche, de dire, bah, écoutez, on demande un effort sur les retraites, simplement pour freiner cette mécanique infernale du déficit. Qu'ont fait tous les, j'allais dire les oppositions, en fait. On peut même plus parler de majorité d'opposition. Mais qu'ont fait tous les autres partis, ils ont rejeté ces articles. Donc, in fine, moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de marge de manœuvre aujourd'hui pour un gouvernement, quel qu'il soit. Et donc, en effet, c'est sans doute l'élection qui arrive l'an prochain qui permettra de trancher tous ces choix.
De bloquer ça, oui.
La Commission qui propose aussi une TVA sociale. Baisser la fiscalité du travail et rehausser les taxes sur la consommation.
C'est une des mesures les plus impopulaires qui existent.
Ah.
Voilà.
Et donc, pourtant, parmi les plus pertinents de l'économie.
C'est la TVA de mer. Hein. La TVA déjà, sociale, déjà Nicolas Sarkozy. Oui,
c'était Borloo. Hein. Ça avait coûté quelques dizaines de sièges à l'UMP.
Vous vous rappelez, aux législatives.
Ouais. Et depuis, plus personne n'ose la toucher. Et ça serait pourtant la plus efficace, vous dites, Ryan Nézard. Pourquoi?
Alors, il y a deux manières de faire. Il y a la manière qui consiste à dire on va baisser les cotisations des employeurs, et à la manière qui consiste à dire on va rapprocher le salaire net du salaire brut.
Oui, c'est le grand sujet quand même qui monte
même
pour la présidentielle.
Différentes. Et si, moi je pense que c'est important, si vous voulez inciter à l'activité, si vous voulez inciter à la reprise d'emploi, et que vous voulez faire que le travail soit rémunéré à sa juste hauteur, et je pense que c'est aussi une des préoccupations importantes des Français aujourd'hui, le fait de dire on supprime des impôts ou des charges sur le salaire qui est touché in fine par les actifs, c'est quand même un vrai facteur, et d'ailleurs qui a été évalué au plan macroéconomique, de création d'emplois. C'est potentiellement 300 000 créations d'emplois en un quinquennat. Donc, c'est du pouvoir d'achat pour les gens, c'est de la création d'emplois, donc derrière, c'est des rentrées sociales et fiscales,
oui.
Mais c'est un choix de société. Il n'y a pas un autre pays d'Europe avec notre modèle social qui n'est pas aujourd'hui une TVA à 25%. Regardez la Suède, regardez le Danemark. C'est pas vrai qu'on peut avoir une assiette de financement de la protection sociale aussi étroite,
oui.
qui pèse uniquement sur le travail. Plus de 80% pèse sur le travail aujourd'hui pour financer la sécurité sociale. C'est pas vrai qu'on peut faire ça tout en ayant des salaires qui payent dignement. C'est pas vrai. Donc c'est un choix qu'il faut faire.
Et voilà. On en revient à la politique. En réalité, pour pouvoir proposer des arbitrages aux gens, qui sont des arbitrages dont on pense qu'ils seront utiles pour le pays et pour eux, et les convaincre. Parce que vous avez raison, les Français demandent que le travail paye plus. C'est constant. Mais les Français disent, de tous les impôts, celui qu'on déteste le plus, c'est la TVA. Toute hausse de la TVA, ils sont pas...
On a martelé que c'était injuste.
Ils sont pas bêtes. Ils voient bien que c'est l'impôt qui rapporte le plus. Qui pèse le plus lourd. Effectivement, ils ont un sentiment d'injustice parce qu'on est habitué à des impôts progressifs. Or, la TVA, bah, tout le monde la paye et sur des produits de grande consommation. Oui, mais sur des produits de grande consommation courants de Madame Michu ou Monsieur Durand, bah, au supermarché,
Vous ne touchez pas au taux à 5,5 sur l'alimentation, sur les loyers, il n'y a pas de TVA. Les deux premières dépenses, c'est le logement et l'alimentation.
Oui, d'accord, mais il n'empêche que sur le reste, ça va les concerner et que ça va leur déplaire. Et là où je veux en venir, c'est que pour expliquer ça, il faut susciter une certaine confiance. Il faut avoir l'adhésion de gens à qui vous avez présenté ça au moment d'une campagne, et il faut ensuite le mettre en œuvre. Et même si les gens continuent de ne pas approuver, bah ils l'acceptent. Mitterrand a aboli la peine de mort en 81, les deux tiers des Français étaient pour la peine de mort. Mais c'était dans son programme, il l'avait dit. Bon, bah, il l'a dit, il le fait.
Oui.
Et donc, c'est politique. Pour ça qu'il faut voilà. attendre 2027, politique. Malheureusement.
Quel Mac.
Oui, en tout cas, c'est vrai que il y a quelques années, Patrick Artus avait fait un calcul où il avait regardé si on augmente un point de taxe, quelles taxes sont les plus nocives. On prend la TVA, on prend l'impôt sur les sociétés, on prend l'impôt sur le revenu, on prend la CSG, on prend les cotisations et on regarde à chaque fois quel est l'effet un peu sur l'emploi, la croissance, etc. Et effectivement, mais c'est pas non plus si étonnant, il s'est avéré quand même que la taxation la plus nocive pour l'emploi, c'était quand même les cotisations sociales. Oui. Donc voilà, donc et en fait tous les systèmes, même très redistributifs, comme en Europe du Nord, le Danemark, ont fait ce transfert il y a déjà 20 ans, voilà, de se dire, on veut garder un système très redistributif, mais par contre, ça ne peut pas s'appuyer uniquement sur le salaire, enfin, sur le coût du travail. Donc, on va faire ce transfert des cotisations vers d'autres assiettes fiscales, et notamment vers la TVA. Donc, mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que disait Gaël, comme thème de campagne, c'est compliqué à expliquer. Hein. Ça reste assez... Oui. Voilà, c'est un
avec
peu technique.
Avec la retraite à 67 oui. ans, on met les deux.
Voilà,
retraite
ça fait un bon programme.
Retraite à 67 ans et hausse de 5 points de la TVA.
Ça soit très et désirable.
C'est un peu technique. La TVA, tout le monde comprend bien ce que c'est. Les cotisations sociales, pas forcément. Elles sont sur le bulletin de paie. On ne les voit pas. Je veux dire, voilà, bon. Donc, c'est pas facile à mener comme combat, mais c'est vrai qu'il faut...
C'est un combat important.
Voilà.
Ça peut faire gagner 10% de pouvoir d'achat pour le salarié médian en France. Enfin, c'est quand même massif, hein. Y compris après avoir payé la TVA.
10%.
Ah oui.
Parce que le point de TVA est à 12 milliards quand même, 12-13 milliards quoi, à peu près. Hein,
Pas y compris après avoir...
Si vous transférez, c'est exactement ce que vous décriviez, Galmac, si vous transférez aujourd'hui, mettons 60 milliards d'euros depuis la feuille de paye des salariés vers la TVA, les gens qui bossent, c'est une médiane, hein, mais peuvent y gagner 200 euros par mois. Enfin, je veux dire, c'est massif comme effet macroéconomique. Et derrière, c'est de
les
la consommation.
Les actifs travailleurs, ça veut dire que ça va se répartir sur
c'est une
population.
Incitation à aller travailler, c'est de la richesse qu'on crée dans le pays.
Partie du Big Bang fiscal que propose Pierre Cazeneuve, un député EPR Renaissance. Mais alors, c'est hausse de la TVA, hausse de la CSG et rétablissement de la taxe d'habitation pour financer tout ça. 200 euros pour 15 millions d'actifs, mais beaucoup de hausse d'impôts.
Et qui, par contre, n'en bénéficie pas, ce qui est normal, vu que c'est le projet, les retraités.
Et, oui.
Et pour qui votent les retraités? Pour les partis qui peuvent proposer cette mesure.
Non, et surtout, qui vote? Les retraités.
Oui,
alors, à la présidentielle, ils votent plus, mais tout le monde vote à la présidentielle.
C'est pour ça qu'il faut aussi avoir, c'est un peu politique ce que je veux dire, mais un projet de société.
Oui.
Et c'est pas simplement que chacun regarde sur sa propre feuille.
Oui.
C'est de se dire, est-ce qu'une société dans laquelle on fait peser l'essentiel des charges sur les gens qui bossent, est-ce que c'est tenable? En tout cas, il faut choisir. Soit on veut un modèle social, évidemment, je suis favorable. Soit on veut un modèle social, il faut le financer. Et ça peut pas toujours reposer sur les mêmes. Soit on se dit, un peu à l'anglo-saxonne, finalement, on jette les gens vers les assurances privées, pourquoi pas, hein, mais auquel cas, il faut l'assumer. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le choix que font les politiques français.
Juste un dernier mot sur le coût de la crise. Hier, le ministre des Comptes publics, David Amiel, était auditionné par le Parlement. Il a détaillé les 6 milliards d'économies que la puissance publique devra faire pour compenser le coût de la crise. Les parlementaires n'ont pas été convaincus, visiblement, puisque pour eux, le compte n'y est pas. C'est flou, on n'a pas l'ensemble des économies, mais surtout, l'OCDE vient de réviser la croissance mondiale pour tout le monde. On se dirige tout droit, possiblement, vers une récession avec le conflit au Moyen-Orient qui dure. Cette crise, elle va coûter beaucoup plus que 6 milliards, Ryan Nézard.
Oui, ça, on le sait déjà. Ne serait-ce que par l'effet, de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a une prévision de croissance de 0,9% pour 2026.
Il va falloir qu'on la divise par deux, grosso modo.
Potentiellement. Et si c'était demain 0,5 au lieu de 0,9, ça veut dire, en fait, pour les caisses de l'État, de l'ordre, je fais le calcul de tête, de l'ordre de 6 milliards d'euros en plus de déficit. Donc vous voyez qu'on double tout de suite l'addition. Donc c'est normal que le gouvernement et le Parlement soient un peu soumis aux aléas de cette conjoncture économique et réagissent un peu au coup par coup. Après, je pense qu'il faut aussi se dire, à un moment donné, il ne faut pas courir après la crise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire des coupes aveugles à ce point qu'on s'inflige nous-mêmes une récession, on n'est quand même pas loin, hein, parce que le premier trimestre était
à zéro.
Moins zéro, hein. Ça a été révisé à la baisse, c'est moins zéro.
Il ne faut pas qu'on s'inflige une récession simplement pour essayer de maintenir absolument un objectif de déficit alors qu'il n'y a plus de croissance. Il faut avoir un peu de discernement.
Allez, il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Il est 10h19, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts, le dernier débat va concerner notre souveraineté numérique. Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, avait porté un texte pour notre défense industrielle, notamment face aux surcapacités chinoises. C'était le thème d'un séminaire à la Commission européenne vendredi dernier. Hier, la Commission a présenté un grand plan de souveraineté pour lutter contre nos dépendances technologiques. Plus de 80% des produits, services et infrastructures numériques sont extra-européennes. Nos dépendances, nos produits viennent d'en dehors de nos frontières. Et afin de réduire cette dépendance, eh bien, Bruxelles vient de dévoiler un paquet inédit sur cette souveraineté. Que contient-il ? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, surtout Gaël Mac ?
Alors, que contient-il ? Il est quand même... un peu offensif, quand même, on va dire. Disons que...
L'accueil est assez mitigé, hein,
voilà.
Je trouve,
alors,
ce matin.
Bon, c'est toujours... L'Europe, elle est quand même confrontée à un problème de fond qui est que, en fait, les deux zones qui lui font concurrence, les États-Unis et la Chine, sont tous les deux très agressifs et, en fait... n'accepte de l'Europe que ce soit un marché de consommateurs passifs et finalement qui viennent acheter ces produits et donc ils sont quand même assez prompts à ils sont très attentifs et ils sont prompts aux rétorsions et aux représailles très vite. Donc on doit toujours un peu s'excuser, si j'ai bien compris, de quand on veut faire un programme de souveraineté. Alors dans ce cadre, il y a deux sujets majeurs. Il y a un premier sujet sur les semi-conducteurs, donc qui passe par des aides publiques d'un côté, donc ça c'est la carotte, et par un peu le bâton en disant que bon, pour les entreprises qui jouent pas le jeu d'acheter, enfin d'essayer d'acheter au maximum européen, on va parfois leur imposer. Alors là, il y avait quand même eu un précédent, hein, c'est-à-dire que la Chine a tout à coup interdit à l'export des puces pour les automobiles, qui s'appellent des puces Nexperia.
Ouais.
Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les constructeurs automobiles européens ont supplié la Commission d'autoriser à acheter des puces d'un autre constructeur chinois de puces, voilà, qui n'était pas du tout plus, enfin, qui ne convenait pas du tout plus que Nexperia. Donc voilà. Donc là, la Commission européenne dit bon, il va falloir elle tape un peu du poing sur la table. Est-ce que ça va marcher ? Je rappelle qu'on avait déjà fait un Chips Act, hein, c'était Thierry Breton, qu'à cette époque, on espérait avoir 20% de part de marché dans les semi-conducteurs d'ici 2030, et que ça a été très mitigé le bilan aujourd'hui, puisqu'on est à 10,5%, donc je ne pense pas qu'on va être à 20% d'ici 2030. C'est un discours un peu offensif, mais je suis pas sûre que ça soit suivi des faits. Ouais. Et le deuxième sujet, c'était sur le cloud. Le cloud et l'IA, donc là, il y a des exclusions de marché public pour certaines entreprises étrangères et il y a l'instauration pour la défense, dans le domaine de la défense, qui est vraiment quand même super critique, d'obligation de recourir au cloud européen. Je rappelle que les États-Unis disposent d'un texte depuis Trump 1, qui Cloud Act, qui dit que un peu comme à la chinoise d'ailleurs.
Il peut nous siphonner toutes nos données.
Que Amazon,
bon vouloir,
Meta, voilà.
Vraiment ce que disent
Google,
les grandes plateformes, de nous promettre un cloud très sécurisé.
Qu'ils doivent donner leurs données aux autorités si elles le réclament, y compris celles qui ne sont pas hébergées aux États-Unis. Donc voilà. Mais je rappelle que c'est aux États membres de mettre en œuvre ces recommandations. Donc là encore, on peut s'attendre à des fortes disparités.
Peut-être deux chiffres. On réalise des baromètres sur l'innovation, notamment avec BFM. Chez Frédéric Simotel, on les présente souvent, avec Saegus. Et dans ces baromètres, que nous disent les gens que nous interrogeons, donc les Français d'une part, dont les salariés qui l'utilisent dans le cadre de leur travail, et ceux qu'on appelle les pros de la tech, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'univers tech, qui sont très pointus sur ces sujets-là. Sur cette question de la souveraineté, ils nous disent que c'est extrêmement important. Et année après année, quand on leur demande les IA qu'ils utilisent, si elles sont françaises et ou oui. chinoises, américaines, eh bien, on se rend compte que la part de ceux qui utilisent de l'IA française décroît et est archi minoritaire.
Ah oui, décroît, parce qu'on a l'impression ouais. qu'il y a un élan en ce moment, il y a beaucoup
non,
de mobilisation autour de Mistral.
Il y a eu une poussée Mistral l'année dernière.
Patriotisme économique.
Oui, mais il y a une volonté, c'est-à-dire que les gens nous disent « j'aimerais bien », on va le résumer comme ça, « j'aimerais bien, je voudrais, j'ai testé », mais à l'usage, on est sur ChatGPT, Claude et consorts. Premier élément. Deuxième élément, sur le rapport à l'Europe et à la souveraineté, il y a une attente qui peut... Alors, ça ne suffira pas à réconcilier les Français avec l'Europe, mais peut-être à donner le sentiment qu'on n'est pas toujours les idiots du village international, parce que c'est un petit peu comme ça que les Français voient l'Union européenne, et pas que les Français, d'ailleurs, quand on fait des sondages au niveau européen, c'est ce que nous disent les gens. Et sur la souveraineté, ils nous disent deux choses. La France élue et l'Europe n'agissent pas suffisamment pour garantir leur souveraineté en matière d'IA, à plus de 70% chez les Français, 75% chez les pros de la tech. Et si la France et l'Europe n'investissent pas et n'encouragent pas suffisamment le développement de l'IA pour une majorité de Français et pour plus des deux tiers des pros de la tech. Oui. Donc on est bien sur ces sujets qui touchent aujourd'hui nos concitoyens.
Il y a un changement quand même qu'on peut saluer, qu'on peut noter, c'est que la souveraineté était vue par la réglementation jusqu'ici à Bruxelles. Là, on passe un cap vers l'idée d'une industrialisation quand même. Il y a tout un pilier sur le cloud, notamment, et l'AI Development Act, qui vise à tripler la capacité des centres de données durables en Europe d'ici 2030, là, dans ce paquet de la Commission IANESA.
Pour moi, ce ne sont que de bonnes nouvelles, ce qui a été annoncé par la Commission hier. C'est plus d'investissements dans les infrastructures, ce que vous venez de dire, les fameux 200 milliards d'euros pour tripler la capacité des data centers en Europe d'ici 2030. C'est plus de préférences européennes, ça a été évoqué sur les données, ce qui permettra de nous protéger. Alors, il y a le domaine de la défense où c'est le plus critique avec dans l'échelle de souveraineté, le niveau de protection le plus élevé, mais ça va aussi jusqu'au niveau le plus faible, le fait d'avoir un stockage des données à minima en Europe. Ensuite, c'est plus de protectionnisme sur les marchés publics, ce qui l'a aussi été... C'est pas écrit protectionnisme dans les documents de la Commission européenne, mais c'est ça que ça veut dire en vrai. C'est de dire, par exemple, la Commission va passer des marchés sur le cloud.
Enfin, j'ai envie de dire.
Absolument. Oui. Et va le faire avec des clauses qui vont favoriser les entreprises européennes.
264 milliards de dépenses informatiques annuelles pour soutenir nos propres acteurs.
J'en termine par là, c'est de pouvoir créer enfin des champions européens du numérique. Et bon sang de bonsoir, on a tous les atouts. On a SAP sur les logiciels de gestion d'entreprise, on a OVH sur le cloud computing, on a Mistral, ça a été dit, sur les modèles d'IA, ASML sur les semi-conducteurs, Pasquale sur le calcul quantique, je vais arrêter là la liste, mais on a tous les atouts, on a les chercheurs, on a maintenant l'énergie, et particulièrement en France, l'énergie décarbonée abondante et peu chère grâce au nucléaire. Maintenant, ce qui manque, c'est l'investissement. C'est le capital.
Et donc, les marchés de capitaux. Bah oui,
voilà, évidemment. Ce qu'il va falloir ajouter à cette stratégie
pour
qu'elle réussisse, c'est l'union des capitaux.
Un levier de décision. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois.